La mille et une nuits, tome 9, chapitre 1. Ataf, ou l'homme généreux. Sire, continua Scheherazade en s'adressant au sultan des Indes, il y avait à Damas, capitale de la Syrie, sous le règne du calife Haroun al-Rachid, un seigneur nommé Ataf, si libéral et si généreux qu'il égalait et peut-être surpassait le célèbre Hatem de la tribu de Taï, dont la générosité est tellement passée en proverbe que son nom est devenu le nom même de la générosité. Ce qui a fait dire à un poète arabe que Hatem a fait perdre le nom à cette vertu. Ataf eût pu faire perdre pareillement le nom à Hatem. Celui-ci, comme votre majesté l'a souvent entendu raconter, faisait quelquefois tuer jusqu'à 40 chameaux pour régaler ses hôtes. Un jour même, n'ayant par hasard rien à offrir à un envoyé de l'empereur grec, il fit tuer pour lui son cheval, qui était d'un prix inestimable et passait pour le plus beau cheval de toute l'Arabie. Ce sacrifice était grand, mais Ataf en fit un encore plus grand lorsque, pour sauver la vie à un ami, il lui céda, comme votre majesté le verra dans cette histoire, une épouse charmante et à laquelle il était tendrement attaché. Le calife Haroun, ayant un jour l'esprit fatigué par la multitude des affaires dont il venait de s'occuper et voulant se dissiper, appela son grand vizir Jaffar, le Barmécide, Mesrour, chef de ses eunuques, et passa avec eux dans une galerie qui renfermait une multitude d'objets rares et curieux. Un grand nombre de ces objets étaient exposés au regard. Les autres étaient renfermés dans des coffres précieux ou dans des armoires de bois de sandal. Le calife, sans s'arrêter à ceux qui frappaient le plus les yeux par leur magnificence, dit à Mesrour de lui ouvrir une armoire. Mesrour l'ouvrit et s'éloigna un peu. L'armoire était remplie de livres dont la plupart renfermaient des secrets merveilleux, des prédictions étonnantes. Haroun al-Rachid prend un de ces livres et lit les premières pages. Cette lecture l'attendrit, il répand quelques larmes, mais bientôt il se met à rire. Peu après, il recommence à pleurer, et puis à rire. Enfin il pleure encore et rit ensuite une troisième fois. Jaffar, attentif aux diverses sensations qu'éprouvait successivement le calife, ne put s'empêcher de lui dire « Commandeur des croyants, quel est donc le sujet de ce livre et pourquoi vous fait-il pleurer et rire presque en même temps comme font ceux qui ont l'esprit aliéné? Ce livre serait-il capable de troubler la raison la plus saine, l'esprit le plus solide et le plus judicieux qui soit au monde ?»« Jaffar, répondit le calife, j'excuse ta curiosité. Mais la comparaison que tu fais des diverses affections que je viens d'éprouver avec ce qui arrive aux fous est déplacée et téméraire, et le jugement que tu portes de ce livre est entièrement faux. Pour t'apprendre quel est son mérite et te faire voir que je ne suis pas fou, sors de ma présence et ne parais devant moi que lorsque tu seras mieux instruit et que tu pourras me dire toi-même le contenu de cet ouvrage. Tu sauras alors pourquoi j'ai pleuré et ri tout à la fois. Sors, te dis-je. Et si tu parles devant moi avant de connaître la raison de ce qui te paraît aujourd'hui singulier, et même ridicule, la mort la plus affreuse sera la punition de ton audace. » En disant ces mots, le calife ferma le livre, le remit dans l'armoire et en prit la clé. L'arrêt que venait de prononcer le calife jeta le trouble et l'effroi dans l'âme de Jaffar. Il sortit accablé de douleur et se retira chez lui, marchant à pas lents et réfléchissant à son aventure. Quel affreux revers, disait-il en lui-même. Je perds mon rang, ma fortune, et me voilà banni pour toujours de la présence du calife. Car comment pouvoir deviner ce qu'il a lu, et les motifs qui ont fait couler ses pleurs et exciter ses ris? Jaffar, plongé dans ses réflexions, allait entrer chez lui lorsque son père, Yahya, le Barmécide, déjà informé de ce qui venait de se passer, s'avance à sa rencontre et lui dit. Mon fils, tu as eu le malheur de déplaire au calife. Mais il ne faut pas désespérer de recouvrer ses bonnes grâces et de satisfaire à ce qu'il exige de toi. Cet événement a quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux, qui permet d'augurer ce qu'on oserait attendre dans une circonstance ordinaire. Mais le temps peut seul nous dévoiler ce mystère et mettre fin à ta disgrâce. Aujourd'hui, le destin veut que tu t'éloignes du calife. Pars sans différer et prends le chemin de Damas. Mon père, répondit Jaffar, j'ai la plus grande confiance dans vos lumières et dans votre expérience. Je suis prête à suivre votre conseil, et vais seulement dire adieu à ma femme. Garde-toi, reprit Yahya, d'entrer dans ton palais. Quitte à l'instant ces lieux, et obéis à l'arrêt du destin qui doit décider de ton sort et qui a préparé les événements qui vont s'accomplir en toi. » Jafar, docile aux avis de son père, monta aussitôt sur une mule qui se trouvait à la porte de son palais et prit le chemin de Damas. Après un voyage long et fatigant, pendant lequel il ne lui arriva rien de remarquable, il se trouva à la pointe du jour, dans cette vallée délicieuse appelée le Ghouta de Damas, qui s'étend à plus d'une journée de chemin alentour de la ville. Quoique triste et inquiet, Jafar ne put voir, sans plaisir, ces lieux regardés avec raison comme le premier des quatre ferdous, ou paradis de l'Asie, et qui passe même pour avoir été autrefois le paradis terrestre où fut placé le premier homme lorsqu'il eut été formé de la terre grasse et féconde de cette contrée productrice. Jafar admirait ces campagnes riantes, arrosées par des rivières qui descendent de l'Anti-Liban, se partagent en plusieurs bras joints ensemble par une multitude infinie de canaux et vont se décharger dans un lac immense. Ces prairies toujours vertes émaillées de mille fleurs qu'un printemps perpétuel fait éclore. Ces arbres de toute espèce, chargés des fruits les plus beaux et les plus délicieux du monde. Comme il approchait l'après-midi de la ville, après avoir traversé la vallée des Violettes, il vit venir à lui plusieurs personnes dont une l'invita, de la manière la plus polie, à mettre pied à terre. C'était Ataf, qui se promenait par hasard de ce côté-là avec plusieurs de ses amis, et qui, ayant reconnu de loin Jafar, s'était empressé de venir à sa rencontre. Jafar descendit de sa mule, on se salua réciproquement, et, après les compliments d'usage, Ataf invita la compagnie à venir se reposer dans son palais, qui était peu éloigné et situé à l'entrée de la ville. On entra dans une salle magnifique, dont les murs étaient revêtus de marbre. Elle était ornée de tapis précieux et de sofas recouverts des plus riches étoffes. Au milieu était un grand bassin d'où jaillissait un jet d'eau qui allait presque frapper le fond d'un dôme construit au-dessus. Au bout d'environ une heure, on servit un repas composé d'un grand nombre de mets les plus exquis et les plus délicats. On apporta ensuite des bassins et des aiguières pour laver les mains. Une troupe de musiciens entra dans la salle et exécuta un très beau concert, après lequel on servit le dessert qui se termina par le café. Les convives s'étant retirés, Ataf restait seul avec Jafar, le remercia de l'honneur qu'il faisait en logeant chez lui et parut curieux de savoir quel était le motif de son voyage. Jafar ne fit aucune difficulté de s'ouvrir à Ataf et lui raconta tout au long son aventure avec le calife Harun al-Rachid. Ataf, touché de la confiance de Jafar et sensible à sa disgrâce, l'exhorta à ne point trop s'affliger et le pria de rester dans la maison où le hasard l'avait d'abord conduit, l'assurant qu'il y serait toujours le maître et qu'il pourrait y demeurer 10 ans sans craindre de l'incommoder. En même temps, Ataf fit dresser au milieu d'une salle un lit magnifique pour son hôte et tout auprès un autre petit pour lui-même. Jafar fut un peu surpris de cet arrangement et demanda à Ataf s'il n'était pas marié. Ataf, lui ayant répondu qu'il était marié, « Pourquoi, reprit Jafar, ne couchez-vous point auprès de votre épouse ?»« Seigneur, repartit Ataf, mon épouse ne trouvera pas mauvais ce que je fais et ne m'en aimera pas moins. Ne serait-il pas en effet malhonnête à moi de laisser seule une personne aussi considérable que vous et d'aller passer la nuit auprès de mon épouse, de me lever ensuite demain matin et de me rendre seule au bain ? En agir ainsi serait, à mon sentiment, montrer un grand défaut de politesse et manquer aux égards qu'on doit à un seigneur aussi distingué. Assurément, tant que vous me ferez l'honneur d'habiter ma maison, je ne vous quitterai pas pour aller tenir compagnie à mon épouse, mais je resterai auprès de vous jusqu'à ce que vous retourniez à Bagdad. » Jafar ne put s'empêcher de remercier d'abord Ataf et dit ensuite en lui-même. Ceci est étonnant et c'est pousser un peu loin la politesse et le désir de me faire honneur. Le lendemain matin, Jafar et Ataf se levèrent et allèrent ensemble au bain. Jafar, après s'être baigné, allait reprendre ses habits, mais Ataf lui en présenta d'autres plus magnifiques. Au sortir du bain, ils trouvèrent à la porte des chevaux tout prêts. Ils montèrent à cheval, se promenèrent aux environs de la ville, visitèrent le tombeau appelé Kabr al-Set et passèrent ainsi la journée d'une manière qui aurait pu amuser Jafar dans une autre circonstance. Le jour suivant, ils allèrent se promener d'un autre côté. 4 mois s'écoulèrent ainsi. Au bout de ce temps, Jafar, ennuyé de voir qu'il ne lui arrivait rien d'extraordinaire et qui put lui faire espérer la fin de son exil, s'abandonna de plus en plus à la tristesse et au chagrin. Son hôte s'en aperçut et lui dit un jour qu'il s'affligeait au point de répandre des larmes. « Pourquoi, Seigneur, vous affliger ainsi? Cherchez plutôt à vous distraire et dites-moi seulement ce que vous voudriez faire pour cela. » « Il est vrai, généreux Ataf, répondit Jaffar, que l'uniformité de nos plaisirs, ces promenades qui se renouvellent tous les jours, quelque délicieux que soient les lieux que nous parcourons, ajoutent à mon ennui. J'aimerais mieux, je crois, me promener seul dans Damas et visiter un jour la mosquée des Omniades, qu'on regarde comme une des quatre merveilles du monde. « Qui vous empêche, Seigneur, répondit Ataf, de faire ce qui vous plaît davantage? Quelque plaisir que j'ai à vous accompagner, j'y renonce volontiers si la solitude a pour vous plus de charme et peut vous procurer plus de dissipation. » Jaffar se leva aussitôt pour profiter de la liberté que lui laissait son hôte. « Prenez cette bourse, lui dit Ataf, peut-être vous en aurez besoin. » Jaffar accepta sans façon la bourse et sortit avec autant de plaisir que s'il fût sorti d'une prison. Après avoir traversé plusieurs rues et plusieurs places publiques, Jaffar se trouva près de la mosquée des Omniades et vis-à-vis de la porte appelée Djiroun, à laquelle on monte par 30 degrés de marbre. En entrant dans ce temple, qui est un monument de la piété et de la magnificence de Walid, fils d'Abd-al-Melek, le 6e calife de la famille des Omniades, Jaffar fut frappé de la variété des marbres, de l'éclat de l'or et des pierreries qui brillaient de toutes parts. Lorsqu'il eut considéré à loisir toutes ces beautés et que sa curiosité fut satisfaite, il sortit par une porte opposée à celle par laquelle il était entré et continua de se promener dans la ville. En passant dans une rue détournée, Jaffar vit un banc commode et voulut se reposer. En face de ce banc, il y avait des croisées sur lesquelles étaient des caisses remplies de giroflées, de basilic et autres fleurs de toute espèce. Jaffar fut à peine sur le banc qu'il entendit ouvrir une des croisées et vit paraître une jeune personne d'une figure charmante faite pour enchanter tous ceux qui la voyaient. À la vue de cette jeune personne fit sur Jaffar une impression d'autant plus vive qu'il eut tout le temps de la considérer à son aise tandis qu'elle arrosait, les unes après les autres, les fleurs qui étaient sur sa fenêtre. Lorsque toutes les fleurs furent arrosées, la jeune personne regarda dans la rue. Mais voyant que quelqu'un la considérait, elle se retira précipitamment et ferma la croisée. Jaffar attendit longtemps pour voir si la fenêtre ne s'ouvrirait pas une seconde fois. Le soir étant venu, il voulait se retirer, mais chaque fois qu'il allait se lever, il sentait en lui-même quelque chose qui lui disait « Reste, peut-être elle va de nouveau paraître. » La nuit surprit Jaffar dans cette attente et l'obligea d'y renoncer. Il sortit de la petite rue, marcha quelque temps dans une autre plus grande et reconnut de loin le palais d'Ataf. Celui-ci l'attendait depuis longtemps et vint au-devant de lui. « Illustre Seigneur, lui dit-il, il est tard, et je craignais qu'il ne vous fût arrivé quelque chose ou que quelqu'un ne vous eût retenu chez lui. Où pourrais-je, répondit Jaffar, trouver un hôte aussi poli et aussi généreux qu'Ataf? Depuis longtemps, je n'avais pas fait une promenade semblable à celle que j'ai faite aujourd'hui, et aussi propre à me dissiper et à m'amuser. Voilà pourquoi je l'ai prolongée jusqu'à ce moment. » Jaffar et Ataf étant rentrés, on servit le souper. Jaffar voulut prendre quelque chose comme à son ordinaire, mais il lui fut impossible de rien manger. Ataf s'aperçut que son hôte ne mangeait pas et lui en demanda la raison. « J'avais beaucoup d'appétit lorsque je dînais, répondit Jaffar. Peut-être je me suis trop abandonné, et c'est pour cela que je ne puis souper. » Ataf fit aussitôt desservir et invita son hôte à se coucher. Jaffar se mit au lit, mais il lui fut aussi impossible de dormir qu'il lui avait été impossible de manger. Il pensait continuellement à la jeune personne qu'il avait vue à la fenêtre, poussait de profonds soupirs et disait en lui-même « Heureux celui qui pourra te posséder, ô soleil de beauté, lune du temps !» Jaffar passa la nuit dans ce cruel état, ne pouvant fermer l'œil et ne faisant que s'agiter et se retourner dans son lit. Il se trouva si fatigué le lendemain matin qu'il n'eut pas la force de se lever. Ataf, étonné de ne pas le voir paraître, entra dans sa chambre et lui dit « Vous m'inquiétez, Seigneur. Il fait grand jour et vous restez au lit. Est-ce que vous n'auriez pas bien dormi cette nuit ?»« C'est cela même, » répondit Jaffar. Ataf envoya aussitôt chercher le plus habile médecin de Damas qui ne tarda pas à venir. « Qu'y a-t-il ? » dit-il en s'approchant du lit de Jaffar. « Votre maladie ne me paraît pas dangereuse, et il ne sera pas difficile de vous guérir. Où est votre mal ?»«
J'ai mal partout, » répondit Jaffar. Le médecin prit son bras, lui tâta le pouls, et en étudia le mouvement. Il connut aussitôt l'état de Jaffar, mais n'osant lui dire qu'il était amoureux, il demanda du papier pour écrire ce qu'il fallait lui donner. On apporta du papier, le médecin s'assit et fit semblant d'écrire son ordonnance. En ce moment, on vint dire à Ataf qu'une esclave le demandait. C'était une servante qui venait de la part de son épouse pour savoir ce qu'il fallait à dîner et à souper, car Ataf, depuis que Jaffar était chez lui, n'allait pas voir son épouse. Le médecin eut bientôt écrit son ordonnance et la mit sous le chevet de Jaffar. Ataf, après avoir donné ses ordres, rencontra en revenant le médecin et lui demanda s'il avait écrit son ordonnance. « Oui, dit-il, et je l'ai mis sous le chevet. » Ataf le remercia et lui donna une pièce d'or. Ataf, en rentrant dans la chambre de Jaffar, n'eut rien de plus pressé que de prendre le papier qui était sous le chevet, et il y lut ces mots. « Votre hôte, seigneur Ataf, est amoureux. Sachez quel est l'objet dont il était pris, et tâchez de le lui faire obtenir. Mais hâtez-vous, car dans quelques jours, il ne serait plus temps et tous les remèdes seraient inutiles. « Comment ? » dit aussitôt Ataf, en s'adressant à Jaffar. « Nous vivons ensemble et vous me cachez ce qui se passe dans votre cœur. Ce médecin est le plus habile de Damas et ne peut s'être trompé sur votre état. Lisez ce billet. » Jaffar lut le billet et dit à Ataf. « Ce médecin est un homme étonnant et ne s'est effectivement pas trompé. Hier, en me promenant dans Damas, la vue d'une jeune personne que j'ai aperçue à sa croisée m'a fait éprouver ce que jamais je n'avais encore éprouvé. Je sens que j'en suis éperdument amoureux, que cette passion me consume, qu'elle a déjà fait en moi les plus grands ravages, et qu'elle peut m'ôter d'un peu la vie. » Jaffar fit ensuite à Ataf le détail de son aventure. Il lui dépeignit la rue, l'endroit où il était resté si longtemps assis, et la croisée, garnie de basilics et de giroflées, où il avait vu paraître la jeune personne. Il traça ensuite le portrait de cette beauté, peignit ses yeux, sa bouche, la tournure de son visage, l'élégance de sa taille, ses grâces, sa modestie. Ataf reconnut d'abord le lieu de la scène, d'autant plus facilement qu'il avait aperçu de loin Jaffar sortir de la petite rue. Il vit pareillement que la maison devant laquelle Jaffar s'était reposé était un corps de logis séparé du reste de son palais et situé au bout de ses jardins, dans lequel habitait son épouse. Le portrait de la jeune personne acheva de le convaincre que c'était son épouse, la belle Zalika, que Jaffar avait vue à sa croisée et pour laquelle il avait conçu une passion si violente. « Que je suis heureux, dit-il aussitôt à son hôte, de pouvoir vous annoncer que je connais l'objet de votre amour et que rien ne peut s'opposer à vos vœux. La jeune personne que vous avez vue à la croisée vient d'être répudiée par son mari. Je vais trouver à l'instant son père pour l'engager à ne promettre sa main à personne et je vous ferai part du succès de ma démarche. » Ataf sortit aussitôt de l'appartement de Jaffar, traversa ses jardins et se rendit au petit palais qu'habitait son épouse, qui était en même temps sa cousine. Elle se leva dès qu'elle le vit, vint à sa rencontre, lui baisa la main et lui dit en riant « Mon cher Ataf, votre hôte est apparemment parti. » « Non pas, répondit Ataf, mais je viens vous voir un instant pour vous prévenir d'aller le plus tôt que vous pourrez chez le seigneur Abdallah, votre père. Je l'ai rencontré il n'y a qu'un moment sur la place publique. Il m'a appris que votre mère est incommodée d'une violente colique et désire que vous vous rendiez sur le champ auprès d'elle. » L'épouse d'Ataf, affligée de cette nouvelle, se prépare aussitôt à sortir, prend avec elle plusieurs de ses esclaves, arrive à la maison de son père et frappe à la porte. Sa mère, qui se trouvait là par hasard, ouvrit elle-même la porte. « Dieu soit loué, » dit-elle en voyant sa fille. « Tu es bien aimable de venir ainsi nous surprendre. »« C'est plutôt à moi de remercier Dieu, » reprit l'épouse d'Ata. « Il me paraît que vous êtes débarrassée de votre colique. J'en suis enchantée. »« Ma colique ?» reprit la mère. « Que veux-tu dire ? » ?»« N'avez-vous pas eu ce matin, » repartit sa fille, « une violente colique ?»«
Moi ? Tu veux plaisanter, » dit la mère.
Pendant cette conversation, Abdallah survint. « Qu'y a-t-il donc ? » dit-il. « Il me semble que j'entends parler de coliques. Quelqu'un est-il malade ?»«
Mon père, » lui dit sa fille, « n'avez-vous pas rencontré tout à l'heure mon mari ? Et ne lui avez-vous pas dit que ma mère était incommodée d'une violente colique ?
« Je ne suis pas sortie d'aujourd'hui, dit le père, et je n'ai encore vu personne. »
Tandis qu'ils cherchaient à éclaircir ce mystère, ils entendirent frapper à la porte et virent entrer des porteurs chargés de paquets.
« Quels sont ces paquets ? Dit Abdallah.
« Ce sont, répondit un des porteurs, des paquets que vous envoie le seigneur Attaf et qui contiennent les hardes de votre fille.
« Que veut dire ceci ? Dit Abdallah en lançant à sa fille un regard plein de courroux. « Et qu'avez-vous fait à votre mari ? Pour qu'il envoie ici derrière vous tout ce que vous appartient.
Au nom de Dieu, lui dit sa femme, arrêtez et ne formez pas des soupçons injurieux à l'honneur de votre fille.
Sur ces entrefaites, Attaf arriva, suivi de plusieurs de ses amis.
Pourquoi vous conduire de cette manière, lui dit son beau-père.
Seigneur, répondit Attaf, je n'ai aucun reproche à faire à votre fille, et je ne puis que rendre hommage à sa vertu, à sa candeur et à son innocence. Mais un serment indiscret m'est échappé. L'événement a trompé mon attente et m'oblige, en gémissant sur mon imprudence, à me séparer d'elle et à lui rendre sa liberté.
Attaf remit aussitôt en pleurant à son épouse ce qui lui revenait encore, fit dresser l'acte qui lui rendait sa liberté et s'empressa de rejoindre Jaffa.
Depuis le moment où je vous ai quitté, lui dit-il en l'abordant, jusqu'à ce moment-ci, je n'ai été occupé que de vous. Et j'ai tout arrangé de manière que personne ne peut vous ravir celle dont la possession doit vous rendre la santé. Vous pouvez maintenant bannir tout souci et toute inquiétude, vous promener, aller aux mains, ne songez qu'à vous divertir jusqu'au moment où elle pourra se remarier selon les lois.
Quelque amoureux que fût Jaffar, il sentit qu'il fallait attendre que le délai rigoureux fût écoulé. Pénétré de la grandeur du service que venait de lui rendre Attaf, il lui en témoigna sa reconnaissance dans les termes les plus forts qu'il put trouver. Sa maladie se dissipa bientôt, et il ne s'occupa plus que du bonheur dont il allait bientôt jouir. Attaf, redoublant de soins et d'attention pour son hôte, cherchait à l'amuser et à lui faire paraître le temps moins long, en lui procurant toutes sortes de plaisirs et de divertissements. Le délai étant près d'expirer, il voulut assurer le succès du mariage de Jaffar et lui communiquer le projet qu'il avait conçu pour cela.
« Mon cher seigneur, lui dit-il, pour épouser la personne dont vous êtes épris, il faut renoncer à l'incognito, paraître ici avec tout l'éclat de votre charge et vous faire rendre les honneurs qui appartiennent au premier vizir. J'aurai soin de vous procurer les équipages, le cortège et toutes les choses nécessaires. Vous sortirez secrètement de chez moi pour vous rendre à Ems ou à Amma. J'y ferai porter vos bagages et vous y trouverez des cavaliers bien montés. Vous enverrez ici des courriers pour annoncer que vous venez de parcourir l'Égypte, que vous parcourez maintenant la Syrie par ordre du calife et que vous comptez vous rendre tel jour à Damas. On vous fera dresser des tentes hors de la ville. Le gouverneur et les grands iront au-devant de vous et vous rendront leurs hommages. Vous enverrez alors chercher le seigneur Abdallah et vous lui demanderez sa fille en mariage. Il se trouvera très honoré de votre alliance et vous l'accordera sur le champ. Vous ferez aussitôt dresser le contrat et vous continuerez votre route pour Bagdad. » Jaffar, toujours résolu de s'abandonner entièrement au destin, et commençant à entrevoir dans son aventure quelque chose d'extraordinaire, et peut-être le terme de son exil, approuva les mesures que lui proposait Attaf, et le remercia de son zèle et de sa générosité. Lorsque tout fut disposé, Jaffar partit secrètement. Au bout de quelques jours, 20 cavaliers arrivèrent à Damas et annoncèrent que le grand vizir Jaffar, après avoir parcouru l'Égypte, parcourait la Syrie par ordre du calife et qu'il allait passer par la capitale de la province. Cette nouvelle se répandit bientôt parmi tous les habitants. Le gouverneur, Abdelmalek Ebn Merouan, fit dresser des tentes hors de la ville et alla à sa rencontre jusqu'à une demi-journée de chemin accompagné des principaux officiers et des magistrats. Tous s'empressèrent à l'envi d'offrir à Jaffar des présents, et il trouva, en entrant dans sa tente, un repas magnifique. Toute la ville sortit pour voir le premier vizir, et ce jour fut un jour de fête et de réjouissance publique. Jaffar, au milieu de toute cette pompe et de ses honneurs, envoya chercher le père de la jeune personne dont il était amoureux. Abdallah, c'était, comme on l'a déjà dit, le nom de ce seigneur, s'empressa de se rendre aux ordres du grand vizir et s'inclina profondément devant lui. « Votre fille, lui dit Jaffar, vient d'être répudiée par son mari. »«
Il est vrai, seigneur, répondit Abdallah. Elle est présentement chez moi. »«
J'ai entendu parler, reprit Jafar, de sa beauté, de son esprit. Je voudrais l'épouser.
Seigneur, repartit Abdallah en s'inclinant de nouveau profondément, je suis prête à vous remettre entre les mains votre esclave.
Je me charge de sa dot, dit alors le gouverneur de Damas.
Et moi, je l'ai déjà reçue, reprit Abdallah.
On dressa aussitôt le contrat de mariage. Le gouverneur invita Jafar à venir loger dans son palais. Mais Jafar s'excusa en disant qu'il devait continuer sa route le lendemain. Il prévint en même temps Abdallah de faire en sorte que sa fille fût prête à partir avec lui. Abdallah sortit aussitôt pour annoncer à sa fille le nouveau mariage qu'il venait de conclure pour elle. Il l'aborda avec les témoignages de la plus grande joie et lui vanta beaucoup le rang et les richesses de son nouvel époux. La fille d'Abdallah, qui aimait Ataf, vit avec peine qu'elle allait passer dans les bras d'un autre. Peu sensible aux idées de grandeur et d'ambition qui flattaient son père, elle ne lui répondit que pour témoigner sa soumission et se retira dans l'intérieur de son appartement. La nuit suivante se passa dans les plaisirs. Toute la ville et les maisons de campagne des environs étaient illuminées. Les grands et le peuple étaient également enchantés de la présence du grand vizir et du mariage qu'il venait de contracter à Damas. Le lendemain, Jafar fit annoncer qu'il se mettrait en marche sur les 3 heures après-midi. Abdallah eut soin de tout préparer pour le départ de sa fille et la fit monter dans une litière magnifique. À l'heure indiquée, les trompettes donnèrent le signal. Jafar s'avança, accompagné du gouverneur et des principaux de la ville. Derrière eux venait la litière de la nouvelle mariée, environnée de ses femmes et de ses esclaves. Le reste du cortège marchait ensuite. Lorsqu'on fut arrivé à l'endroit appelé Kobal à la Zafir, il ne voulut pas souffrir qu'on l'accompagnât plus loin. Il congédia le gouverneur et les principaux de Damas et les remercia des témoignages d'attachement qu'ils lui avaient donnés. Le gouverneur de Damas et ceux qui l'accompagnaient rencontrèrent, en revenant à la ville, Ataf qui allait faire ses adieux au premier vizir. On se salua de part et d'autre et le gouverneur dit à Ataf « Nous venons de reconduire le premier vizir et vous ne faites que sortir. »
« Je ne croyais pas, répondit Ataf, qu'il dût partir aussi promptement. Quand j'ai su qu'il était monté à cheval, j'ai rassemblé quelques-uns de mes gens et je vais pour le rejoindre.
« En voitant, vous le trouverez encore, reprit le gouverneur, près de Kobal à la Zafir. » Ataf fit faire diligence à sa petite troupe et joignit bientôt Jafar. Il descendit de cheval, s'approcha du premier vizir et lui dit « Je rends grâce à Dieu qui a rendu le calme et la joie à votre âme en vous donnant l'objet de vos désirs.
« Mon cher Ataf, répondit Jafar, c'est à toi que je dois mon bonheur. J'espère reconnaître bientôt le service important que tu m'as rendu. Je ne t'ai causé jusqu'ici que trop de peine et d'embarras. Retourne sur tes pas, je ne veux pas que tu passes une nuit hors de ton palais. »
Ataf, craignant de se rendre importun ou de désobliger le premier vizir en l'accompagnant plus loin, lui souhaita un heureux voyage et reprit le chemin de Damas. Cependant, les ennemis qu'Ataf avait auprès du gouverneur cherchèrent à profiter de la circonstance pour le perdre. Savez-vous, dit l'un d'eux nommé Hassan, à Abd al-Malek, pourquoi Ataf est parti si tard pour aller faire ses adieux au grand vizir?
Pourquoi? Répondit le gouverneur.
C'est, reprit Hassan, pour se trouver seul avec lui et pouvoir l'entretenir plus librement, car le grand vizir a passé chez lui plusieurs mois incognito. C'est peut-être aussi pour voir encore une fois sa femme qu'Ataf se rend après vous auprès de Jafar.
De quelle femme voulez-vous parler? Dit le gouverneur.
« De la femme d'Ataf, reprit Hassan, cette jeune femme qu'il a répudiée pour la donner au grand vizir. »«
Comment ? » dit le gouverneur. « Serait-ce la belle Zalika, la plus jeune des femmes d'Ataf, celle qu'il aimait plus que toutes les autres ?»«
C'est elle-même, reprit Hassan. Cette séparation a dû coûter à Ataf. Mais que ne fait-on pas pour satisfaire son ambition ? Il espère que le grand vizir, pour prix de cette complaisance, lui fera donner le gouvernement de Damas. »
Ce discours perfide produisirent sur l'esprit du gouverneur de Damas l'effet qu'attendaient les ennemis d'Ataf. Il conçut une violente jalousie contre lui et résolut de s'en défaire sur le champ. Dans ce dessein, il fit cacher pendant la nuit dans le jardin d'Ataf le corps d'un homme qui venait d'être assassiné. Le lendemain, après quelques perquisitions, faites seulement pour la forme dans divers endroits, on entra chez Ataf. L'officier de police, chargé de cette commission, était instruit de tout et dévoué au gouverneur. Le cadavre fut bientôt trouvé. On se saisit de la personne d'Ataf, on l'amena devant Abd al-Malek, on se saisit de la personne d'Ataf,
on l'amena devant Abdalmelek. Il feignit le plus grand étonnement en voyant paraître Ataf conduit par l'officier de police et parut fort attentif au rapport que lui fit cet officier. « Savez-vous, dit ensuite Abdalmelek à Ataf, qui a tué l'homme dont on a trouvé le corps dans votre jardin ?»«
C'est moi qui l'ai tué, répondit Ataf. »«
Que vous avez-il fait ? Continua le gouverneur. Et pourquoi l'avez-vous tué ?»«
Seigneur, reprit Ataf, il est inutile de me faire ces questions. Si je me reconnais coupable de ce meurtre, vous devez penser que c'est pour payer seul l'amende, empêcher que mes voisins ne soient inquiétés et obliger d'en payer une partie. »
« Je ne me contente pas, reprit vivement le gouverneur, de punir le meurtre par une simple amende.
Je prétends suivre exactement la loi et juger selon ce précepte divin, âme pour âme. »
Le gouverneur, se tournant alors du côté de l'assemblée, interpella plusieurs de ceux qui étaient présents de déposer ce qu'ils venaient d'entendre dire à Ataf. Tous déposèrent qu'Ataf s'était reconnu coupable du meurtre. Ataf leur demanda ensuite le gouverneur, jouit-il de toute sa raison ou a-t-il l'esprit aliéné? Tous attestèrent qu'Ataf jouissait de toute sa raison. Le gouverneur dit alors au juge, « Vous avez entendu les déclarations des témoins et l'aveu fait par le coupable. Appliquez la peine portée par la loi et prononcez la sentence. » Les juges ne purent s'empêcher de condamner à mort Ataf d'après sa déclaration. On fit lecture de la sentence et le gouverneur envoya aussitôt chercher le bourreau. Toute l'assemblée était consternée. Le peuple, bientôt instruit de cet événement, accourait en foule et murmurait hautement. Le gouverneur crut qu'il était prudent de ne pas faire exécuter publiquement Ataf. Il parut se rendre aux instances de ceux qui l'entouraient et commanda qu'on le conduisit en prison. Mais en même temps, il fit dire secrètement au geôlier qu'il enverrait étrangler ce prisonnier la nuit suivante. Le geôlier était attaché à Ataf, dont il avait plus d'une fois éprouvé la bienfaisance. Il fut révolté de la conduite du gouverneur, qui lui parut l'effet de la haine et de la jalousie. Il ne douta pas que, si le calife était instruit de cette affaire, il ne reconnut l'innocence d'Ataf et ne punit le gouverneur. Il résolut donc d'exposer sa vie pour sauver celle de son bienfaiteur et lui donner les moyens de faire entendre ses plaintes. Dans cette intention, le geôlier s'approcha d'Ataf et lui fit part de ce qu'il venait d'apprendre.
« J'attends tranquillement la mort, répondit Ataf. Je voulais obliger mes voisins et les dispenser de payer l'amende. Le service que je leur ai rendu est cause de ma mort. Je dois adorer les décrets de Dieu et me soumettre à ma destinée.
« Que dites-vous ? Reprit le geôlier. Je veux vous sauver et sacrifier, s'il le faut, ma vie pour acheter la vôtre. Je vais d'abord briser vos chaînes. Ensuite, je me ferai plusieurs blessures au visage. Je déchirerai mes habits et je m'arracherai la barbe. Vous me mettrez ce tampon dans la bouche, vous sortirez de la prison et vous vous éloignerez promptement. »
Ataf accepta les offres du geôlier et le remercia en pleurant de sa générosité. Il sortit de prison quand tout fut exécuté et prit aussitôt le chemin de Bagdad. Cependant, le gouverneur de Damas, empressé de se défaire d'Ataf, se rendit à la prison vers le milieu de la nuit, accompagné seulement du bourreau. Quelle fut sa surprise lorsqu'il vit la porte ouverte, le geôlier tout couvert de sang, la barbe arrachée, les habits déchirés, élevant les mains au ciel sans pouvoir parler. Il fit ôter le tampon qu'il avait dans la bouche et lui demanda qui l'avait mis dans cet état.
« Seigneur, répondit le geôlier, il y a environ une heure qu'une troupe de scélérats ont brisé la porte de la prison et se sont jetés sur moi. J'ai crié de toutes mes forces et j'ai appelé au secours. Ils m'ont mis ce tampon dans la bouche et m'ont assommé de coups. Tandis qu'une partie de ces scélérats me traitaient ainsi, les autres ont brisé les fers d'Ataf et m'ont emmené avec eux. Et ils avaient tous le visage barbouillé de noir et de rouge et ressemblaient à des démons, de façon qu'il m'a été impossible d'en reconnaître aucun. »
Le gouverneur, au désespoir de voir sa victime lui échapper, ne savait s'il devait ajouter foi au rapport du geôlier et demanda au bourreau ce qu'il pensait de cet événement. Celui-ci dit que le geôlier occupait depuis longtemps cette place, dans laquelle il avait succédé à son père et que jamais il n'avait laissé échapper aucun prisonnier. Le gouverneur, pour punir le geôlier, se contenta de lui ôter sa place. De retour dans son palais, il envoya de différents côtés des cavaliers à la poursuite d'Ataf. Ceux-ci, après avoir battu de tous côtés la campagne, revinrent au bout de plusieurs jours sans avoir pu apprendre aucune nouvelle de celui qu'ils cherchaient. Cependant, Ataf après une marche longue et pénible à travers des déserts et des chemins détournés, n'était plus qu'à quelques journées de chemin de Bagdad lorsqu'il fut attaqué par des brigands qui lui ôtèrent tout ce qu'il avait sur lui. Il continua ainsi sa route et arriva dans ce pitoyable état à la ville. Il demanda le palais du grand vizir et s'y rendit, mais lorsqu'il voulut y entrer, on le repoussa. Comme il se tenait à la porte, il lui passèrent un vieillard d'une figure respectable et lui demanda s'il avait une écritoire et un calame. Oui, lui répondit le vieillard, et je vais écrire pour vous si vous le voulez. Je vous remercie, repartit Attaf, je vais écrire moi-même. Il prit l'écritoire et mit par écrit à Jaffar tout ce qui venait de lui arriver. Il remercia ensuite le vieillard en lui rendant son écritoire et s'avança vers les gardes qui étaient à la porte, en priant l'un d'eux de remettre sa lettre au premier vizir. Le garde la prit et promit de la remettre sur le champ. Au même instant, on entendit un grand bruit de tambour. Chacun se demandait ce que c'était. On apprit bientôt qu'il venait de naître un enfant au calife et qu'on allait faire des réjouissances publiques pendant 7 jours. Aussitôt, tout fut en mouvement dans le palais. On allait, on venait, on se pressait de tous côtés. Au milieu de ce tumulte, le soldat qui s'était chargé de la lettre d'Attaf la laissa tomber. Une nouvelle garde vint se poster à la porte du palais. On se saisit d'Attaf et on le conduisit en prison. Peu après, le grand vizir monta à cheval et fut publié, dans toute la ville, l'ordonnance du calife pour les réjouissances publiques qui devaient durer 7 jours. Par cette même ordonnance, le calife rendait la liberté à tous les prisonniers. Attaf, relâché avec les autres, vit bien qu'il ne pourrait pas informer facilement Jaffar de ce qui le concernait et qu'il fallait attendre pour cela une occasion favorable. Il trouva en sortant de prison toute la ville décorée et illuminée. L'air retentissait du bruit des instruments de musique et les rues étaient bordées, des deux côtés, de longues tables couvertes de mets de toute espèce. Attaf prépare au repas public et passa ainsi les 7 jours de réjouissance. Le soir du 7e jour, chacun se retira chez soi, fatigué de plaisir. Les rues devinrent aussi désertes qu'elles avaient été peuplées quelques heures auparavant, et le silence, le plus profond, succéda au bruit et au tumulte. Attaf entra alors dans une mosquée pour y passer la nuit. Mais après qu'on eut fait la prière du soir, un des gardes de la mosquée s'approcha de lui et lui dit de sortir avant qu'on fermât la porte. « Laissez-moi, dit Attaf, passer la nuit dans un coin. »« Cela est impossible, répondit le gardien. Hier, on nous a volé un tapis, et je ne veux que personne couche ici cette nuit. »« Je suis étranger, reprit Attaf, et je ne connais personne dans cette ville. Donnez-moi l'hospitalité pour aujourd'hui seulement. » Le gardien ne voulut rien écouter et obligea Attaf de sortir. Dès qu'Attaf fut dans la rue, il se vit poursuivi par une multitude de chiens qui aboyaient d'après lui, tandis que les gardiens des marchés et des divers quartiers lui criaient de s'éloigner. Il aperçut une place couverte de débris et inhabitée et voulut s'y cacher. En y arrivant, il rencontra sous ses pieds quelque chose qui le fit tomber. Il reconnut que c'était un cadavre et se releva tout couvert de sang. Dans ce moment même, le lieutenant de police passa par là avec ses gens. On se saisit d'Attaf et on le mena en prison. Mais laissons pour un moment Attaf déplorant son malheureux sort et retournons à Jaffar, que nous avons quitté près de Kobat à la Zafir, faisant route vers Bagdad, avec la nombreuse suite que lui avait donnée Attaf et la jeune épouse dont il lui avait fait le sacrifice. Après quelques heures de marche, Jaffar s'arrêta dans un lieu commode pour passer la nuit. Les domestiques, chargés du soin des tentes, avaient pris les devants et avaient dressé 2 magnifiques pavillons, l'un pour Jaffar, l'autre pour la nouvelle mariée. Lorsque chacun fut retiré dans sa tente, Jaffar, empressé de se trouver seul avec la beauté pour laquelle il avait conçu une passion aussi violente, se rendit près de Zalika. Dès qu'elle l'aperçut, elle se cacha le visage dans ses mains. Jaffar le salua, elle lui rendit humblement le salut, mais sans changer d'attitude. « Pourquoi, lui dit Jaffar, me dérober la vue de ces yeux qui m'ont si bien fait sentir leur pouvoir? N'êtes-vous pas mon épouse ?»« Seigneur, répondit Zalika, si un prince aussi puissant que vous veut prendre la femme de celui qui lui a donné longtemps l'hospitalité et qui a prodigué pour lui ses biens et ses richesses, je suis votre épouse, et même votre esclave. »« Que signifie ce discours ?» répliqua Jaffar. « Vous n'êtes pas la femme d'Attaf. » « Je le fus, repartit Zalika. « Et je devrais l'être encore. Le mal dont vous fûtes atteint après m'avoir vu arroser des fleurs à une croisée détermina Ataf à me répudier pour me donner à vous. Mais je pense que vous n'abuserez pas de la générosité de celui que je regarde toujours comme mon mari, et c'est pour cela que je me cache devant vous le visage. »
Jafar fut on ne peut plus étonné de ce qu'il venait d'apprendre. « Puisqu'il est ainsi, dit-il après un moment de réflexion, quoique selon les lois vous ne soyez plus à Ataf, mais à moi, je vous regarde comme n'ayant pas cessé d'appartenir à mon ami, et j'aurai pour vous les égards et le respect que j'aurai pour ma mère ou ma sœur.
Après s'être parti avec moi et avoir ici passé la nuit, vous ne pouvez retourner auprès d'Ataf sans donner lieu à des soupçons injurieux pour votre honneur et le sien. Il vaut mieux venir jusqu'à Bagdad. Vous recevrez sur la route les honneurs qu'on a coutume de rendre à l'épouse du premier vizir, et vous profiterez des présents qu'on viendra vous offrir. Arrivé à Bagdad, je vous donnerai un palais, des esclaves, des eunuques, des habillements de toute espèce et une pension convenable à mon rang. Tout cela vous appartiendra, et vous pourrez en disposer quand les circonstances nous auront appris le parti qu'il conviendra de prendre. En attendant, soyez sans la moindre inquiétude, et reposez-vous sur ma délicatesse du soin de ménager la vôtre. » La passion que j'avais d'abord conçue pour vous a pris tout à coup un caractère différent, et s'est changée en une tendresse fraternelle aussi forte que mon amour était ardent. En achevant ces mots, Jafar s'éloigna de Zalika et se retira dans sa tente. On se remit en route le lendemain matin. Toutes les villes par lesquelles on passait s'empressaient de venir rendre hommage à celle qu'on regardait comme l'épouse du premier vizir et de lui apporter des présents. Jafar lui donna en arrivant à Bagdad un palais magnifiquement meublé qui dépendait de son sérail. Il mit auprès d'elle un grand nombre d'eunuques et d'esclaves, lui fit présent de bijoux précieux, de riches habillements, et n'oublia rien de ce qui pouvait la flatter et l'amuser. Jafar avait au lieu d'espérer que la colère du calife serait apaisée et que le récit des aventures qui lui étaient arrivées pendant son exil pourrait le faire rentrer dans les bonnes grâces de son maître. « D'où viens-tu ? » lui dit Haroun en le voyant. « Et où as-tu été depuis que je t'ai ordonné de t'éloigner de ma présence ?»«
J'ai été à Damas, » répondit Jafar.
« Chez qui as-tu demeuré ? » lui demanda le calife.
« Chez Ataf, » répondit le vizir.
Jafar raconta ensuite au calife tout ce qui s'était passé entre lui et Ataf. Lorsque Jafar eut achevé, le calife appela Mesrour, lui remit une clé et lui dit d'aller chercher le livre qu'il avait lu devant lui et son vizir quelques mois auparavant. Mesrour ayant apporté le livre, le calife le présenta à Jafar, qui vit avec étonnement qu'il renfermait tout ce qui lui était arrivé depuis son départ de Bagdad jusqu'au moment où il s'était séparé d'Ataf près de Kobat à la Zafir. Ferme le livre, lui dit alors le calife. Je te ferai lire la suite lorsque les événements qu'elle contient seront accomplis. Jusqu'ici, tu as éprouvé tout ce qui est prédit. Tu vois donc que j'avais raison de te dire de ne paraître devant moi que lorsque tu pourrais répondre toi-même à la question que tu me faisais et me dire ce que j'avais lu. Tu vois aussi pourquoi je pleurais et riais alternativement. Je partageais la peine et la satisfaction que tes diverses aventures t'ont fait éprouver successivement. » Le calife reprit alors le livre et dit à Mesrour de le remettre dans l'armoire. « Retire-toi maintenant chez toi, dit-il ensuite à Jafar, et reprends les fonctions de ta place. Ma colère n'était qu'une colère feinte. Je voulais éprouver la vérité des prédictions renfermées dans ce livre. Je te rends toute mon amitié, et ton obéissance dans cette circonstance n'a fait qu'augmenter mon attachement pour toi. » Cependant, Ataf ayant passé la nuit en prison, fut conduit le lendemain devant le cadi, qui lui demanda si c'était lui qui avait tué l'homme près duquel il avait été trouvé couvert de sang.
« C'est moi qui l'ai tué, » répondit Ataf.
« L'avez-vous fait de propos délibéré ?»«
Oui. »«
Jouissez-vous de toute votre raison ?»«
Oui. »«
Quel est votre nom ?»«
Ataf. »
Le cadi envoya aussitôt le rapport de cette affaire au moufti, qui prononça la sentence. Le greffier dressa le procès-verbal et envoya la pièce du procès au premier vizir. L'ordre de mettre la sentence à exécution fut bientôt expédié et Ataf conduit au pied de la potence. Le grand vizir, accompagné d'une suite nombreuse, passa par hasard en ce moment près du lieu où allait se faire l'exécution. L'officier qui devait y présider, ayant aperçu le grand vizir, courut au-devant de lui pour lui rendre ses devoirs.
« Quelle est cette exécution qui attire tant de monde ?» lui demanda Jafar.
« Nous allons, répondit l'officier, pendre cet habitant de Damas qui a assassiné un homme. »«
Quel est cet habitant de Damas ?» reprit Jafar.
« C'est un nommé Ataf, dit l'officier. »« À ce nom, Jaffar jeta un grand cri et commanda qu'on lui amenât Attaf. L'officier courut, délia la corde qui était attachée au cou d'Attaf et l'amena à Jaffar qui le reconnut malgré l'état affreux dans lequel il était et se jeta à son cou. Attaf reconnut de son côté Jaffar et le serra dans ses bras.
« Que veut dire ceci, mon cher Attaf ? » dit le vizir en pleurant.
« Ma liaison avec vous, répondit Attaf, m'a conduit jusqu'ici de malheur en malheur. » À ces mots, ils tombèrent l'un sur l'autre sans connaissance. On les releva, et après qu'ils eurent repris leurs esprits, Jaffar fit conduire Attaf au bain. Il lui envoya un magnifique habillement et le fit venir dans son palais. On servit d'abord à Attaf les rafraîchissements et la nourriture dont il avait besoin. Jaffar le pria ensuite de lui apprendre tout ce qui lui était arrivé depuis leur séparation près de Kobat al-Azafir. Attaf lui raconta la perfidie d'Abd al-Malek, le stratagème du geôlier qui l'avait mis en liberté, la manière dont il avait été dépouillé près de Bagdad, la tentative inutile qu'il avait faite pour lui faire savoir ses malheurs, comment il avait passé les 7 jours de réjouissance publique, ce qui l'avait obligé de sortir de la mosquée, enfin, comment il avait été arrêté et pris pour un assassin. Jaffar raconta de son côté à Attaf de quelle manière il avait appris que Zalika était son épouse. Il le conduisit aussitôt près d'elle, la lui rendit et les laissa seuls. Zalika fit éclater sa joie en revoyant Attaf. Elle se laissa tomber dans ses bras et lui répéta plusieurs fois. « N'est-ce point ici un songe? Est-ce bien vous que je vois, mon cher Attaf ?» Ces deux époux se racontèrent mutuellement leurs aventures. Zalika vanta beaucoup à son mari la manière généreuse dont Jaffar s'était conduite avec elle, et lui fit le détail des honneurs et des présents qu'elle avait reçus. Le lendemain, Jaffar se rendit de bonne heure auprès du calife et lui raconta l'histoire d'Attaf. Assurément, dit le calife, lorsque Jaffar eut fini, voilà une histoire des plus extraordinaires. Le calife appela en même temps Mesrour et lui ordonna d'apporter le livre qu'il lui avait demandé quelques jours auparavant. Mesrour ayant apporté le livre, le calife le fit donner à Jaffar et lui dit de lire. Jaffar y lut tout ce qui était arrivé à Attaf. « Tu vois, dit alors le calife à Jaffar, combien ce livre est merveilleux et comme il mérite d'être gardé précieusement. Assuré que les événements qui sont annoncés ne pouvaient manquer d'arriver, je t'ai ordonné de ne pas paraître devant moi avant de savoir toi-même ce qu'il renfermait. Tu es parti, tu t'es abandonné à la destinée, les événements se sont développés, et tu as tout appris ou par toi-même ou de la bouche d'Attaf. L'idée de ce que vous deviez souffrir l'un et l'autre devait naturellement m'affliger, et j'avais quelques raisons de rire en pensant qu'il dépendait de moi de retenir ou de précipiter le cours de tant d'incidents. Ta curiosité, le jugement peu favorable que tu portais de ce livre, ont provoqué l'ordre que je t'ai donné de t'éloigner de moi, et dès lors, vous deviez nécessairement éprouver tous les deux ce que vous avez éprouvé. Le calife voulut ensuite voir Attaf et commanda qu'on l'amenât. Attaf se prosterna devant lui et fit des vœux pour la durée et la prospérité de son règne. Le calife lui demanda ce qu'il désirait qu'il lui accordât. « Commandeur des croyants, dit Attaf, pardonnez à Abd al-Malek. » « Comment, prit le calife, tu demandes grâce pour lui après qu'il a voulu te faire périr ?»«
Ce n'est pas sa faute, reprit Attaf, mais la faute de ceux qui l'ont trompé et l'ont excité contre moi par leur perfide succession. Quant à moi, je lui pardonne de bon cœur, et je donne au geôlier tout ce qui m'appartient. Confirmez, je vous prie, cette donation. Et pour empêcher qu'Abd al-Malek ne soit trompé par la suite, accordez à ce geôlier le droit de réviser tout ce que fera le gouverneur, et que rien ne se fasse dorénavant à Damas sans que mon libérateur y appose le sceau que vous voudrez bien lui envoyer. » Le calife consentit sans peine à ce qu'Attaf lui demandait, et ses ordres furent remis à un courrier qui partit sur le champ pour Damas. Le bruit s'était répandu dans Damas qu'Attaf était allé à Bagdad pour porter ses plaintes au calife. On ne doutait pas qu'Abd al-Malek ne payât de sa tête le crime dont il s'était rendu coupable. On craignait même que toute la ville ne ressentît les effets de la colère d'Harun al-Rashid et l'on attendait avec impatience des nouvelles de la capitale de l'Empire. Tout le peuple alla au-devant du courrier et fit éclater sa joie lorsqu'il fut instruit du contenu de ses dépêches. Le gouverneur s'estima fort heureux d'avoir obtenu son pardon, et fit remettre au geôlier le sceau que lui envoyait le calife, ainsi que la donation qui lui assurait tous les biens et toutes les richesses d'Attaf.
Le geôlier, fort étonné de son élévation, écrivit à Attaf pour lui témoigner sa reconnaissance. Jaffar se chargea de dédommager son hôte et son ami. Attaf, par ses soins, se trouva bientôt 10 fois plus riche qu'il n'était auparavant. Scheherazade venait d'achever l'histoire d'Attaf, et le jour, qui paraissait, ne lui permettait pas d'en commencer une autre. « Ma sœur, lui dit Dinarzade, je vous ai souvent entendu parler des anciens héros de l'Arabie et de leurs aventures merveilleuses. Je m'étonne que vous n'en ayez encore raconté aucune au sultan. « Ma sœur, reprit Scheherazade, je me propose, si le sultan veut bien prolonger encore ma vie, de lui raconter demain l'histoire du prince Habib et de la belle Dorat al-Goaz. » Le sultan Shahriar, ayant témoigné qu'il écouterait volontiers cette histoire, Scheherazade la commença le lendemain en ces termes.